Bonjour à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie. Nous sommes les samedis 10h30, donc c'est le libre journal des controverses. Je salue bien entendu mon prédécesseur Nicolas Stocker qui a brillamment fait cette émission avec notre ami le colonel Hogard. Très très belle émission. Je le donc salue, bravo à lui. Vous le retrouvez bien entendu la semaine prochaine, 10h30. Je salue Arnaud, le réalisateur star et phare de Radio Courtoisie. Il sera tout seul à vous amener les commentaires. Aujourd'hui, plus personne à la rédaction. Patrice n'est pas là, il est à la réunion. Sylvie, je ne sais pas s'il n'est pas parti avec lui. Donc voilà, il sera tout seul à m'amener vos questions. Donc du coup, je ne sais pas s'il faut appeler. Je crois qu'il ne faut pas appeler, hein. Vaut mieux pas. Hein. Donc du coup, voilà, vous envoyez des mails et je sais que vous aurez plein de choses à dire parce que nous recevons aujourd'hui le professeur Humbert qui va parler intestin. Le professeur Humbert. Bonjour, cher professeur. Après le microbiote et tout ce qu'on a dans le ventre, les microbes, etc. Maintenant, c'est les intestins.
Oui. Merci beaucoup de me recevoir parce que là, on met le doigt sur le problème principal qui est la cause des parasites.
Voilà, les parasites. Alors, quelle est la cause principale? Pourquoi d'abord ce livre?
Alors, ce livre, parce que ça fait des années que je me dis qu'il y a des personnes qui souffrent, qui ont mal au ventre, qui ont des douleurs, des coups de poing, des coups de poignard, c'est intolérable. Ils vivent comme ça depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans parfois, et souvent on leur dit « vous n'avez rien, c'est dans votre tête ». Or, je suis persuadé, j'étais persuadé qu'ils avaient quelque chose, et j'ai réussi à démontrer qu'ils ont véritablement une vraie maladie, et quand on traite cette maladie, bien les gens vont bien, vont mieux.
D'abord, revenons à ces parasites, parce que j'imagine que certains auditeurs de Radio Courtoisie n'ont pas lu votre premier livre sur ces parasites, et on sait que donc, c'est lié. On a, nous tous, des parasites, et surtout parce que la vie moderne, parce que la nourriture moderne, d'abord.
Oui. Alors, la nourriture, nous pensions être dans une société hygiéniste, où tout serait nickel, serait propre, etc. Mais non, nous, d'une part, nous avons de la nourriture qui est contaminée par des parasites, ne serait-ce que parce que nous mettons des engrais parfois naturels, du fumier animal, du fumier parfois même humain, et donc nous sommes contaminés par ces parasites. Mais surtout, nous avons un intestin qui, à mon sens, devient de plus en plus fragile. Je ne sais pas si c'est la nourriture transformée ou autre qui fait que notre intestin va devenir extrêmement sensible et va capter ces parasites pour les maintenir pendant des années et entraîner les symptômes.
Alors, qu'est-ce que créent justement ces parasites que nous avons ?
Ces parasites sont vraiment très embêtants. D'une part, ils s'installent, nous le verrons, parce qu'il y a une muqueuse qui est collante, une muqueuse suintante, exudative, érodée, et donc sur les 7 mètres d'intestin grêle, les parasites, petit à petit, vont se coller les uns à côté des autres et entraîner les symptômes que l'on connaît à type de démangeaison, de cystite chez la femme, de soi-disant mycose chez la femme. Mais ce qui est également très important, c'est que ces parasites baissent l'immunité et ce sont eux qui parfois sont à l'origine d'une pneumopathie, d'une toux chronique, mais surtout de l'herpès et également du papillomavirus. Quand on pense que le papillomavirus peut donner le cancer chez la femme, on se dit qu'il est important de savoir si elle n'a pas des parasites qui pourraient favoriser le développement de ces virus.
Alors, par exemple, pourquoi aussi les parasites ? À cause du pain. À cause du pain des années 2020, voilà, 2026, par rapport au pain d'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, déjà.
Eh bien, vous êtes en train de mettre le doigt dessus précisément. Notre alimentation avec deux aliments principaux qui sont impliqués et qui représentent probablement plus de 90% des causes de cette entéropathie, maladie inflammatoire de l'intestin, que je nomme, parce qu'il faut nommer les choses pour pouvoir les traiter, que je nomme entérite microscopique, mais il y a deux aliments, parce qu'ils ont été transformés, parce qu'ils ne sont pas ce qu'ils étaient, etc., c'est le lait de vache et le gluten, qui va chez des personnes fragiles, et nous verrons comment ces personnes sont fragiles et pourquoi elles sont fragiles, déclencher cette fameuse maladie sur laquelle des microbes vont venir, parasites, bactéries de l'estomac, et des carences vont se mettre en place avec des fatigues et puis des liens intestin-cerveau, des burn-out, des syndromes dépressifs. Vous voyez, tout est véritablement relié.
Dites-moi, cher professeur, le fait que aujourd'hui il y ait une recrudescence de ce fameux gluten,
oui,
c'est pourquoi ? Parce qu'avant, moi, quand on était môme, bon bah on mangeait du pain, personne ne parlait du gluten. Là, c'est dû à quoi ? C'est parce que, qu'est-ce qu'il a, ce fameux composant, aujourd'hui, par rapport à ce que, dans les années 80, 90, j'étais gosse?
Oui, alors, effectivement, et il faut le dire, pendant longtemps, on n'a pas osé le dire. Oui, c'est une mode, parfois, quand on était presque convaincu, on finissait par ensuite dire, ah, oh, c'est peut-être la mode, je suis peut-être sensible à cela. Et quand on a vu dans le journal Le Monde, un jour, un titre, le régime sans gluten ne sert à rien, mais j'ai eu peur pour tous ces malades qui ont mal au ventre à cause du gluten, qui ont dû se dire, mais on se moque de nous, je sais très bien que depuis que j'ai arrêté le gluten, je vais très bien. Alors ce gluten, oui, j'ai regardé un petit peu tout cela. Le gluten, c'est le blé, hein, c'est le blé, donc on connaît ça depuis des millénaires, depuis l'homme préhistorique, etc. Mais il semblerait que depuis 2010, il se soit passé quelque chose. C'est-à-dire que j'ai lu que les États-Unis avaient dit « Nous avons des terrains ici qui sont disponibles pour celui qui veut planter du blé. On fera moins de commerce extérieur. » Et donc, des sociétés sont venues planter du blé. Et il faut faire, bien sûr, nourrir la population, ça a été leur objectif. Nourrir la population, il y a un besoin. Et on a mis un blé assez résistant, qui est quand même un peu costaud, un peu coriace. Et puis surtout, on a accompagné ça, comme on le fait pour d'autres cultures, de pesticides, de glyphosate. Et donc, nous devons le reconnaître, et je ne suis pas le seul à le dire, nous avons un gluten glyphosatisé. Eh bien, c'est ce gluten-là qui va abîmer, me semble-t-il, nos intestins au point de déclencher des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Vous avez vu ici les premières lettres d'un acronyme MICI, les MICI, autrement dit, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, dont le point de départ pourrait être chez une personne sensibilisée avec un tissu conjonctif fragile, le rôle du gluten et du lait de vache.
Ce fameux gluten, c'est fou, hein. C'est quelque chose dont on parle très peu, cher professeur. Il y a même une face, on dirait, une sorte d'omerta sur ce gluten.
C'est ce que j'ai constaté et j'en ai été extrêmement surpris. Alors que ce gluten et toutes les personnes qui ont vu leur vie changer depuis qu'elles ont arrêté le gluten et le lait de vache, mais elles me l'écrivent, c'est incroyable, c'est touchant. Eh bien,
ben, Djokovic, par exemple. Le tennisman.
Bien sûr. Comment se fait-il que nous n'en parlions pas davantage? Comment se fait-il que nous ne changions pas le mode de production de ce
Mais
gluten ?
Mais c'est pas compliqué. C'est parce que, cher professeur, ils ont créé, enfin, le capitalisme a créé un nouveau marché, c'est celui du sans gluten.
Ah, peut-être.
Bah alors, oui. Ouais, oui. Pour moi, c'est financier. Parce que regardez, vous avez donc les produits dorénavant qui possèdent ce fameux gluten, ce qu'il n'y avait pas avant. Là, quand je tenais tes mômes. Et là, du coup, ils savent que c'est pas pour la santé, mais qu'il y a un public qui va payer, et donc ils créent le sans gluten. Et quand vous allez dans un supermarché, vous voyez des produits un peu partout sans gluten, qu'ils font payer évidemment plus cher. Hein, ça. Un produit qu'on enlève est plus cher qu'un produit, de plus. Enfin, c'est fou. Hein.
Alors, je n'avais pas vu cette idée-là, elle est pas sotte, en effet. Moi, je me disais, pourquoi on continue à mettre des pesticides avec nos cultures maraîchères, etc. Mais là, vous avez raison. Mais ce que je peux dire aux personnes qui sont sensibles au gluten, n'achetez pas les produits sans gluten.
Ah bon,
parce qu'on se débrouille autrement, parce que ces produits-là contiennent d'autres substances qui peuvent être nuisibles. Et c'est ce qu'on appelle les aliments transformés. Et donc, ne vous rendez pas malade davantage, n'allez pas prendre du poids, par exemple, parce que ces aliments sans gluten sont très riches en calories et on risque de prendre du poids. Donc, il vaut mieux suivre un régime tel que celui qui est dans le livre. D'ailleurs, dans le livre, le régime est extrêmement bien fait.
Voilà. Professeur Humbert, qu'est-ce qui ne va pas dans nos intestins chez Guy Trédaniel ?
C'est ça.
Allez-y.
Et savez-vous qui a rédigé ce régime? Ben moi-même et une de mes patientes, qui est devenue ma collaboratrice aujourd'hui, parce qu'elle a eu 15 ans de maladie épouvantable, des douleurs, etc. Elle avait pris plus de 30 kilos, était dans un syndrome dépressif, etc. Et elle n'en pouvait plus. Elle a envisagé de se suicider. Et
jusque-là.
Elle est venue. Ah oui, jusque-là, sa vie était terrible. Imaginez les douleurs insupportables.
C'est-à-dire que cette dame-là, pour qu'elle ait ces douleurs, cette prise de poids et cette envie de suicide, elle se nourrissait de manière normale, on va dire.
Et non, elle prenait ce qui essayait de la soulager.
Enfin, quand je dis normal, c'est-à-dire normal possible. Aujourd'hui en 2000, dans les années 2000, quoi, ça.
Oui, c'était il y a 4 ans à peine.
Oui.
Donc, elle mangeait des choses très caloriques parce qu'elle évitait effectivement les plats. Non, elle ne savait pas d'ailleurs. Elle ne savait pas que le gluten était toxique chez elle à ce moment-là. Donc, elle se nourrissait très mal, peut-être pour soulager l'anxiété, pour soulager les douleurs. Souvent, les gens se mettent à manger.
Quand vous dites qu'elle se nourrissait très mal, qu'est-ce qu'elle mangeait globalement dans une journée, on va dire?
Eh bien, par exemple, elle allait manger des petits pains au chocolat.
D'accord.
Elle allait manger des croissants, des choses qui ne sont pas bonnes pour
D'accord.
la santé, hein, a priori. Elle prenait des chocolats chauds avec du lait, etc. Et la pauvre, elle habitait Toulouse, elle est venue jusqu'à Besançon, vous imaginez, elle a traversé la France. Et là, elle a eu une consultation qui lui a permis de lui dire tout ce qu'elle avait. Et elle a suivi à la règle, à la lettre, et je l'ai vue se transformer. En 2 mois, les douleurs avaient disparu. Le moral était revenu. Et donc, c'est elle qui a rédigé ce régime parce qu'elle veut que les personnes ne soient pas contraintes par un régime difficile à suivre. Non, elle a mis plein d'astuces. Elle a expliqué, si vous allez au restaurant, voilà ce qu'il faut demander pour pas que vous soyez frustrés.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens cuisinent de moins en moins, j'imagine.
Oui.
Ils vont dans des petits à côté, voilà, boulangerie, brasserie, etc. Et donc ça provoque douleur et prise de poids.
C'est ça. Alors, ces sandwichs, par exemple, parce qu'on veut manger rapidement, et il est vrai que c'est bon. Quand vous avez un bon pain frais avec un sandwich, beurre, fromage, jambon, c'est délicieux. Sauf que là-dedans, le pain blanc n'est pas bon pour votre intestin. Surtout quand vous avez cette particularité dont je vais vous parler tout à l'heure. Le fromage n'est pas bon pour votre intestin non plus, etc. Et donc, quand vous prenez ça, vous allez exciter votre pancréas qui va se mettre à fabriquer beaucoup plus d'insuline, des gros pics d'insuline, et vous allez prendre du poids. Beaucoup de personnes en surpoids aujourd'hui sont des gens qui ont cette maladie du pancréas qui s'appelle l'insulinorésistance. Malheureusement, ce n'est pas encore enseigné dans les facultés de médecine, ou très peu. Et donc, le médecin, il ne sait pas ce que c'est que cette insulinorésistance. Dans beaucoup de cas, j'ai pu m'en rendre compte, alors qu'en traitant l'insulinorésistance, il y a des médicaments pour ça, la personne va perdre du poids. Elle a perdu 30 kilos en 2 ans. Elle ne les a jamais repris parce qu'elle a poursuivi ensuite son régime.
Alors, je rappelle, vous êtes professeur en médecine, reconnu, tout ça, etc. Hein, vous, voilà.
Oui, c'est pas bien sûr, c'est de la médecine, la vraie médecine, basée sur les preuves scientifiques,
bien
avec
sûr.
Des articles de référence. D'ailleurs, dans mon livre, il y a une centaine de références bibliographiques. À toutes les pages, à la fin, tout ça, c'est... Mais c'est de la médecine du
vous
quotidien.
Vous enseignez, vous êtes en cabinet, vous étiez à l'hôpital...
Exactement.
Voilà. Donc, vous avez le parcours classique d'un professeur de médecine. Mais je trouve ça dingue que jambon beurre, c'est-à-dire le jambon beurre, le classique jambon beurre n'est plus bon dorénavant pour la santé.
Et pour certaines personnes, je vais vous expliquer lesquelles.
Allez-y.
Et ça, c'est vraiment une découverte, entre guillemets. Je ne suis pas chercheur biochimique, biologiste, mais on fait de la recherche clinique. Dans ma spécialité qui est la médecine interne, à côté de la dermatologie, la médecine interne, cette spécialité transversale qui est un petit peu au-dessus de toutes les spécialités, on s'intéresse à beaucoup de choses. Eh bien, j'ai pu remarquer en 2016, ça fait pas longtemps, ça fait 10 ans, que les personnes qui étaient laxes, c'est-à-dire qui avaient un tissu conjonctif hypermobile, c'est le terme qu'on utilise aujourd'hui, c'est-à-dire un peu lâche. On va s'en apercevoir, par exemple, si vous avez une scoliose. On va s'en apercevoir si vos jambes partent un petit peu de côté, à partir du genou. On s'en aperçoit si vous avez un hallux valgus au niveau des orteils, si vous avez été opéré des hernies inguinales, hernies discales. Tout ça veut dire que vous avez un tissu conjonctif lâche qui va faire le lit du, le terme est anglais, leaky gut, intestin poreux. Cette découverte qui avait été faite 6 ans plus tôt par des pédiatres chez des enfants, moi je l'ai validée chez des adultes, montre que vous avez le leaky gut et à partir de là, votre intestin est sensible au lait de vache et au gluten et vous allez déclencher ces maladies qui s'appellent pour l'une syndrome de Rancé. Madame le docteur Rancé à Toulouse avait démontré le rôle néfaste du lait de vache. Et puis le syndrome de Volta ou de Lepvol, c'est deux gastroentérologues américains qui dans les années 2012 puis 2015 ont mis le doigt sur cette nouvelle maladie de l'intestin due au gluten. Et voilà les deux maladies qui font souffrir tant de gens. Ma contribution, ça a été de vérifier qu'ils étaient bien hyperlaxes, que les patients étaient bien hyperlaxes. Et deuxièmement, j'ai découvert les signes cutanés sur la peau. La peau parle mieux que les prises de sang, puisqu'il n'y a aucune prise de sang qui peut nous dire ça. Aucune prise de sang nous dit « vous êtes intolérant au lait de vache », aucune prise de sang nous dit « vous êtes intolérant au gluten ». En revanche, il y a des signes sur la peau dont j'ai mis les photos dans le livre et qui permettent de dire que quand vous avez ça, vous êtes intolérant au gluten. Et la sinusite chronique que vous avez, c'est peut-être ça, etc. Les céphalées que vous avez, c'est certainement ça, etc., etc.
Mais attendez, mais ça veut dire que le lait de vache, le classique lait de vache, il a changé par rapport, je veux dire, par rapport à celui d'aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsqu'on va à un supermarché, souvent on prend du lait demi-écrémé. Est-ce que ce fameux lait demi-écrémé a changé par rapport à ce qu'on buvait?
Oui, à vous poser une bonne question. Tout d'abord, le lait de vache n'est pas bon pour la santé en général en cas d'abus, j'allais dire.
Pourtant, la télé nous dit, cher professeur, buvez du lait, c'est le calcium, vos os, etc. Et ça, c'est un message qu'on nous dit tous les jours. L'école nous dit ça aussi, tous les jours.
C'est vrai, c'est vrai. Mais vous savez que c'est faux.
C'est faux.
Plus on boit du lait de vache, plus on risque l'ostéoporose. C'est-à-dire qu'il y a une inversion de cette notion qui était pourtant logique. Prenez du calcium, vous allez fortifier vos os. Aujourd'hui, c'est le contraire. Et on a des preuves biologiques, des preuves dans la littérature médicale, des preuves de société. Les Suédois boivent beaucoup de lait, ils ont beaucoup d'ostéoporose. Et donc aujourd'hui, si vous avez l'ostéoporose, ne prenez pas du lait pour la corriger. Vous allez peut-être l'aggraver. Alors, ce que je dis, c'est des généralités, ça ne s'applique pas à chaque personne. Mais néanmoins, il faut avoir cette vision-là. Le lait n'est pas forcément bon. On dit même, il y a des nutritionnistes, très nombreux, ne prenez plus de lait après l'âge de 3 ans. Alors, pourquoi? Parce que le lait de vache, c'est fait de grosses protéines, caséine, lactoglobuline, lactalbumine. Ces grosses protéines, si vous avez ce tissu conjonctif dont j'ai parlé tout à l'heure, responsable du leaky gut, ces grosses protéines vont abîmer l'intestin. Et quand un petit nourrisson va faire des otites, des angines, qu'on va l'opérer des amygdales et des végétations, c'est parce qu'il a une intolérance aux protéines de lait de vache. Rendez-vous compte, c'est des symptômes très fréquents. La constipation du petit enfant, c'est à cause de sa consommation du lait de vache. Alors, ceux qui connaissent ça et qui le mettent en pratique l'ont démontré tous les jours de leur vie. Ce sont les travaux du docteur Fabienne Rancé de Toulouse. Mais celui qui ne veut pas connaître ça, qui croit qu'il devrait y avoir des prises de sang, il ne saura jamais cela. Donc oui, ce lait. Et puis d'autre part, a-t-il changé? Je pense que oui. Dans le lait, qu'est-ce que nous avons? Mis à part les grosses protéines naturelles qui sont là. Mais nous boostons les vaches pour qu'elles fabriquent du lait. 50 litres au lieu de 20 litres, ce pour quoi elles s'étaient faites. Donc on donne des facteurs stimulant la production laitière. Ces vaches sont traitées, il faut les entretenir, elles ont des antibiotiques. Ces vaches mangent du foin qui contient lui aussi des pesticides. Et donc ce lait, quand on est en bonne santé, c'est très bien. Mais quand on a une souffrance, c'est là probablement qu'est la cause, une des causes, attention au lait de vache.
C'est fou. Le lait, c'est quelque chose que, voilà, on a toujours bu. Moi, j'aime pas trop, mais bon. Mais quand même, j'imagine aussi que le fait que dans les supermarchés, lorsqu'on achète du lait, il est déjà traité aussi de lui-même. C'est-à-dire que alors, si on boit par exemple le lait directement de la pie de la vache, c'est pas la même chose que si on l'achète en supermarché.
Aussi, il y a plusieurs aspects avec le lait de vache. Il y a les aspects immuno-allergiques. Vous savez qu'il y a des gens qui font de l'asthme à cause du lait de vache. Des personnes vont faire des diarrhées immuno-allergiques à cause du lait de vache et des eczémas, de l'urticaire. Et ça, c'est tout un domaine de discussion entre les allergologues, les immunologistes et les pneumologues, par exemple, sur faut-il vivre dans une ferme pour ne pas développer ses allergies ou alors est-ce qu'on doit se protéger de tout ce qu'il y a comme environnement allergénique dans la ferme. Donc, on est en train de discuter. Donc, boire le lait au pis de la vache peut être bénéfique en prévention chez des enfants qui risqueraient de devenir allergiques à plein de choses, mais ça n'a rien à voir, effectivement, avec le lait que vous buvez aujourd'hui, qui a été traité, pasteurisé, le lait qu'on appelle UHT, et qui a subi des chocs thermiques très importants, et qui en modifie les propriétés, effectivement. Il semblerait d'ailleurs que le lait de chèvre et de brebis soit bien meilleur pour la santé.
Dites-moi, j'ai l'impression que l'industrie alimentaire a tellement joué à l'apprenti sorcier que certes, ça nous nourrit, mais derrière ça, nous avons, un peu comme les injections, nombre d'effets secondaires.
Oui. Alors, cela, moi je suis médecin, donc je me place dans la situation des personnes malades. Donc, la grande majorité de la population n'est pas malade, fort heureusement, et donc ces personnes-là ne doivent pas s'inquiéter. Elles vivent tout à fait normalement, avec le fromage, c'est la gastronomie française, etc. Mais, prenons par exemple le problème de l'alcool. La personne qui a une maladie hépatique à cause de l'alcool, cette personne-là doit faire davantage attention que les autres. Donc, quelqu'un qui a des douleurs abdominales, c'est cela que je voulais dire, des diarrhées, de la constipation, et qui souffre vraiment de cet intestin, il doit absolument arrêter, ne serait-ce que comme test thérapeutique d'épreuve, arrêter le lait de vache et le gluten. Alors certaines personnes me disent, mais docteur, j'ai arrêté le lait de vache, ça ne m'a rien fait. C'est le syndrome du tuyau percé. Si vous avez deux trous sur un tuyau, si vous n'en bouchez qu'un, ben vous aurez toujours de l'eau. Donc vous allez dire, j'ai arrêté le lait de vache, mais ça n'a rien fait, forcément, puisqu'il y avait en même temps le gluten. Donc il faut les arrêter les deux. Mais quand il y a le lait de vache et le gluten qui sont irritants pour votre muqueuse, il y a les parasites qui sont là. Et il y a des carences nutritionnelles. Donc, quand on a tout colmaté, eh bien là, on voit les effets bénéfiques de cette mesure diététique et thérapeutique.
Oui, parce que les intestins ont une fonction primordiale. Et d'ailleurs, souvent, à tort, on parle beaucoup de, je sais pas moi, du cœur, des cancers, des choses comme ça, mais très peu de cet intestin. J'ai l'impression que c'est un peu le parent pauvre dans les grands médias ou dans les magazines, on va dire un peu scientifiques.
Oui, oui. Alors, on en parle quand même depuis quelques années, une dizaine d'années. Vous vous souvenez de ce livre de cette étudiante en médecine allemande qui a fait un malheur avec un livre sur l'intestin, où elle a vu que la plupart des maladies d'aujourd'hui viennent de l'intestin. D'ailleurs, c'est ce que disait Hippocrate, 80% des maladies viennent de l'intestin. Nous pourrions prendre un rhumatisme inflammatoire, une polyarthrite. Eh bien, sachez que c'est associé à une myquie, le plus souvent. Prenons n'importe quelle maladie, tout cela vient de l'intestin, muqueuse et parois intestinales, mais également la nourriture que l'on met dedans. Alors pourquoi ce n'est pas révélé comme ça? Parce que nous nous faisons tromper par certaines choses. Nous pensons, par exemple, et nous l'avions vu, que les parasites, si nous avions des parasites, on devrait les trouver dans les selles. Donc on fait des recherches et on ne les trouve pas, et on dit il n'y a pas de parasites. Non, c'était une erreur. Les parasites, il faut savoir qu'on ne les trouve quasiment jamais. Et ils sont là, ils ont des moyens de faire parler d'eux. Il faut savoir juste dire, je suis convaincu qu'il y a des parasites, je traite et on voit comment vous allez. Eh bien, l'intestin, c'est la même chose. Cet intestin, il est malade, mais on va faire plein d'analyses et on va dire, ben non, j'ai rien trouvé, donc tu as rien. Non, parce que, par exemple, une chose très incroyable. Savez-vous que si vous avez mal au ventre, ballonnement, coup de poignard, vous ne pouvez pas vous lever le matin, vous êtes plié en deux, vous avez de la diarrhée 10 fois par jour, ou alors vous avez 3 semaines de constipation, et on vous dit vous n'avez rien. Pourquoi ? Parce qu'on a fait une coloscopie, et cette coloscopie est normale. Et comme elle est normale, on dit vous avez rien. Or, ce que l'on sait, c'est que la coloscopie est normale dans 50% des cas de maladie de Crohn. Donc, un examen normal ne dit pas « vous avez rien ». Il dit simplement ben, « il y a 50% que vous ayez bien la maladie que je suis en train de chercher ». Eh bien, puisque la coloscopie n'est pas l'examen qu'il faut faire, on va faire d'autres examens pour l'affirmer. Et croyez bien que dans le livre, je donne toute la méthode et je donne même les dosages biologiques qui ne sont pas faits régulièrement. Mais ces dosages, quand vous les faites, ils sont perturbés. Et là, avec l'histoire du passé, les régurgitations, constipation avec le lait de vache, avec les douleurs abdominales, peut-être le rhume des foins qui est un marqueur d'intolérance au gluten, etc. Et mes dosages biologiques, vous êtes sûr d'avoir cette double maladie, entéropathie au lait de vache au gluten, qui a probablement évolué vers cette maladie de Crohn du petit intestin, mais qu'on ne voit pas. Et c'est pourquoi je l'appelle entérite microscopique. Mais quand on en arrive là, moi je suis arrivé là il n'y a pas si longtemps, je disais à mes patients, arrêtez le lait de vache, arrêtez le gluten. 80% étaient très satisfaits. Et 20% continuaient de souffrir. J'ai dû sauter le cap, me dire, bon, mais maintenant, il faut bien que je me lance. Je vais traiter une maladie que je ne vois pas, qui est invisible. Mais il y a des marqueurs biologiques, donc elle est là. Et je me suis mis à traiter ces personnes avec les médicaments de la maladie de Crohn. Et là, ça a été spectaculaire. Docteur, je n'ai plus mal. Docteur, c'est formidable, etc. Donc, il y a bien une maladie, mais qu'on ne voit pas. Et il faut avoir l'audace de la traiter. Et bien sûr, de suivre l'efficacité du traitement.
Professeur Humbert, qu'est-ce qui ne va pas dans nos intestins ? Est-ce que l'homme de 2026, enfin le français de 2026, est mieux ou moins bien portant que le français d'il y a 15, 20 ans et avant ?
Alors, je pense qu'il y a des nouvelles maladies. On voit aujourd'hui des gens qui souffrent vraiment et la médecine n'a pas la réponse à beaucoup de choses. Et donc, il y a une énorme déception du corps des malades et même une défiance des malades à l'égard du corps médical. Ça me fait mal au cœur. Je suis médecin avant tout et j'adore mes collègues, j'adore les médecins qui se dévouent corps et âme. C'est un sacerdoce, la médecine. Mais qui vont petit à petit avoir des malades qui vont rejeter leur diagnostic et leur traitement et qui vont se tourner vers d'autres professionnels de santé. Et vous avez vu depuis quelque temps l'engouement de la naturopathie, toutes ces personnes qui se disent thérapeutes, naturopathes et qui vont se mettre à prendre en charge des patients, souvent avec efficacité, parce qu'ils écoutent le malade, ils relèvent les symptômes et ils vont essayer d'y répondre. Et donc, alors, dire que nous allons moins bien, oui, il y a des maladies qui sont liées à la société, et puis il y a également néanmoins une amélioration du confort. Vous avez mal à la tête, vous avez immédiatement un comprimé qui va vous soulager. On a aujourd'hui des médicaments qui ont fait des grands progrès.
Mais ça reste que du confort.
Là, ça reste du confort. Et quand on passe sur des traitements très pointus, malheureusement, il n'y a que, j'allais dire, un dixième des personnes, c'est-à-dire 10% des personnes qui vont y avoir droit parce que on n'aura pas posé le diagnostic. Donc on va dire plutôt 9 fois sur 10, vous n'avez rien, non, calmez-vous, vous êtes anxieux, ces douleurs abdominales, prenez un petit peu de médicaments antispasmodiques. Donc ces gens-là n'auront pas le traitement de la fameuse maladie inflammatoire de l'intestin, mais pour celui pour lequel on a tous les éléments de la maladie de l'intestin, avec la biologie, l'échoscopie, etc., ce malade-là aura les traitements appropriés. Mais alors, malheureusement, il ne représente que 10% des malades.
Alors, question d'auditeur. Bonjour, je vous recommande de lire ce livre montrant comment le lait, même pasteurisé, n'est pas formidable. Le lait UHT, c'est comme l'eau, et le lait microfiltré n'est pas bon car elle laisse passer les nanoparticules grasses. Si possible, boire le lait cru.
Oui, alors, tout ça, c'est l'ensemble intestin-aliment. Quand vous avez cet intestin fragile, qu'on appelle le leaky gut, je pense que c'est un terme qui est assez utilisé en langage courant, intestin poreux. Qu'est-ce que ça veut dire poreux ? Ça veut dire que les cellules ne sont plus cohésives. Elles se disjoignent. Elles se disjoignent et en se disjoignant, elles vont laisser passer des microbes. Je pense que c'est une façon d'expliquer, par exemple, les angines, les otites des petits nourrissons quand ils sont intolérants au lait de vache, vont laisser passer les métaux lourds. Beaucoup de personnes s'inquiètent des métaux lourds. J'ai un brouillard cérébral, j'arrive plus à réfléchir. J'ai une intoxication aux métaux lourds, ça on le trouve, parce que ça passe entre les cellules. Rappelez-vous, Mike, quand on parlait de ces parasites qui passent entre les cellules pour aller circuler dans le sang et parfois aller dans des organes, pourquoi pas le cerveau, etc. Ces parasites. Donc oui, si ce lait-là, avec cet intestin prédisposé, sont réunis, on va avoir la maladie, la vraie maladie.
Alors, question d'auditeur. Après la dernière guerre, les cultures très intensives ont été fortement développées. Les agriculteurs étaient gênés pour l'utilisation de leurs machines par les blés trop hauts et versants. Par des manipulations génétiques ont été obtenus des blés très courts, mais ces modifications ont fait monter le taux de gluten. J'achète du petit épeautre cultivé en biodynamie dans une boulangerie qui n'utilise que le levain.
Bravo, et c'est incroyable, vous avez vu le niveau de compétence de cette personne, de ce niveau de connaissance que je n'avais même pas moi-même il y a 10 ans. Donc c'est dire que ces personnes s'intéressent à tout cela. Et ce monsieur, cette dame, ont tout à fait raison. Le petit épeautre est une céréale qui ne contient pas beaucoup de gluten et c'est celle qu'on recommande dans cette maladie non cœliaque, qui n'est pas la maladie cœliaque. La maladie cœliaque, c'est une autre maladie due au gluten. Mais cette maladie non cœliaque, on recommande le pain au petit épeautre. Alors, cette personne dit, il y a eu certainement des modifications génétiques. Personne n'a revendiqué des modifications génétiques. On n'a pas le droit de faire des OGM pour l'être humain. Mais il s'est passé que l'évolution même des cultures fait que des mutations peuvent apparaître et que ces mutations peuvent être nuisibles. Et surtout, on a mis des blés résistants qui ne sont pas bien digestibles pour notre intestin. Et puis les fameux pesticides.
Mais justement, où est-ce qu'on trouve ces genres de pain avec ce type de céréales, petit épeautre? Est-ce qu'on peut ça trouver partout?
Oui, alors aujourd'hui, il y a beaucoup de petites fermes qui se mettent à faire ça dans les marchés. Dans mon petit village, il y a un marché le samedi matin et on trouve ce pain, petit épeautre.
Et par exemple, les auditeurs qui habitent ici à Paris, parce que là, on émet surtout Paris, Île-de-France, Normandie, donc dans des milieux urbains, est-ce que ça c'est facile à trouver?
Oui, alors parce que les boulangers se mettent à cela, et ça j'en suis vraiment très heureux. Le boulanger va commander cette farine au petit épeautre et il va faire du pain. C'est un pain qui n'est pas facile à faire, on peut le faire soi-même, d'ailleurs il y a les recettes qui expliquent comment faire ce pain au petit épeautre, mais votre boulanger est susceptible de le faire. Il va vous proposer d'ailleurs, il va vous dire, monsieur, vous êtes sensible au gluten, je peux vous faire du pain au maïs, du pain au seigle, du pain au petit épeautre. Prenez le petit épeautre, parce que c'est lui qui contient le moins de gluten, alors que le maïs et le seigle pourraient en contenir davantage et vous pourriez être encore sensible.
Alors, je rappelle le professeur Imbert. Qu'est-ce qui ne va pas dans mes intestins chez notre ami Guy Trédaniel? Et je salue, bien entendu, notre grande amie Marie-Hélène Doré, toujours aussi professionnelle. Salut Marie-Hélène. Alors, une question d'un auditeur. Un grand merci. Je fuis autant que possible gluten et lait depuis 30 ans. Les travaux du docteur signalé sont-ils toujours aussi valables? Bravo pour cette émission courageuse.
Oui, alors, d'une part, je ne peux qu'approuver les propos que vous avez tenus sur Marie-Hélène Doré, une grande professionnelle attachée de presse qui travaille notamment pour M. Guy Trédaniel, qui lui aussi est un grand éditeur et qui s'intéresse beaucoup à mes travaux, à mes écritures, et parce qu'il sait que je vais donner de l'information au grand public qui va leur être utile. Alors, vous posiez la question...
Des travaux du docteur Seignalé.
Exactement. Docteur Seignalé était en avance sur son temps. Et malheureusement, quand on est trop en avance, on n'est pas forcément écouté. Il avait raison sur tout. C'est lui qui a parlé de cette nourriture, cette alimentation inflammatoire, pro-inflammatoire. Il recommandait dans des polyarthrites rhumatoïdes, vous savez, ces rhumatismes déformants épouvantables qui vont toucher souvent une femme d'une trentaine d'années, très douloureuse, déformante, les mains sont déformées. Il avait recommandé l'alimentation sans lait de vache, sans fromage, sans beurre, sans yaourt, sans petit suisse, sans crème. Cette alimentation sans gluten, le pain, les gâteaux, les pâtes, les pizzas. Et là, il a vu des patients guérir, véritablement guérir. Et nous avons aujourd'hui un exemple magnifique, c'est une de mes consoeurs, elle en parle, donc je me permets de simplement signaler son cas. Elle était dermatologue, elle avait des souffrances terribles d'une polyarthrite rhumatoïde et d'une autre maladie inflammatoire générale. Elle était sous traitement immunosuppresseur, elle avait vraiment, elle n'allait pas bien. Et un jour, nous avons l'occasion de discuter, nous parlons de ce régime, c'est pas un régime qui carence, c'est un régime qui redonne des forces. Elle transforme sa nourriture, elle a guéri de sa maladie, plus de polyarthrite, plus de sarcoïdose. Si bien qu'aujourd'hui, elle ne fait plus de dermatologie, elle fait des conseils en micronutrition pour expliquer aux personnes, attention, votre salubrité est dans votre assiette.
Oui, il faut le dire, l'assiette, c'est ce qui est quand même de plus important. Et lorsque je vois cette nouvelle génération qui se nourrit à ce qu'on appelle, bon, je vais pas dire le terme anglais, c'est junk food, mais bon, enfin, je sais pas comment dire ça en français. Cette nourriture un peu, cette mauvaise malbouffe, quoi. Et encore, pour nous, malbouffe, ça veut dire McDonald's et compagnie. Mais il y a pire que ça encore, il y a pire que ça. Il y a cette nouvelle mode chez les jeunes, chez tous les jeunes. Ça s'appelle le crusty, la crusty, je sais pas. Vous voyez ce que c'est? C'est du riz.
Je vois ce que vous voulez dire, oui.
Comment ça s'appelle? Testi crusty, voilà. Testi crusty, ça c'est quelque chose que les jeunes se gavent avec, ou les tacos, ces fameux tacos aussi. Et je vous dis sincèrement, si vous êtes parents ou grands-parents, regardez, parce que je veux dire, moi j'ai 45 ans, quand j'avais 15-16 ans, ça n'a plus rien à voir par rapport à un môme de 15-16 ans d'aujourd'hui. Hein. C'est pas il y a 30 ans. Hein. Là, la période actuelle, c'est déjà folklorique. C'est un autre monde. Hein. Donc, vraiment, justement, qu'est-ce que vous pensez, cher professeur, du fait que toute cette génération qui se gave avec ces tacos, toute cette nourriture dégueulasse, comment vont-ils quels adultes seront-ils?
Alors, ils sont en train d'abîmer leurs organes et leur cerveau. On sait que ces régimes-là vont induire des carences.
Leur
profondes.
Cerveau aussi.
Et dans le cerveau, et c'est comme ça qu'on explique les troubles d'excitabilité, les TDAH de certains jeunes, les troubles du comportement de ces jeunes, par des carences en vitamines du groupe B, B1, B6, mais également en vitamine C. Savez-vous que la vitamine C, c'est la première vitamine qui va être carencé dès lors que vous avez une pathologie de l'intestin et que vous ne mangez pas cette vitamine C. Et donc, des carences aussi graves que ça, on a besoin de ces vitamines. Elles sont indispensables à la vie. Donc, il y a des fonctions qui ne peuvent plus se faire, fonctions cérébrales vitales pour les cellules, quand vous manquez de ces vitamines. Aujourd'hui, les sociétés de compléments alimentaires font floresse avec des vitamines en pagaille, sous toutes les formes.
Est-ce que ça, c'est bon, ça? C'est justement...
Et oui, on est obligé aujourd'hui, c'est ça qui est quand même malheureux, on est obligé, parce que notre alimentation ne nous permet pas d'avoir toutes les vitamines et les nutriments dont nous avons besoin, nous avons l'obligation d'apporter des compléments supplémentaires. Alors, ne faites pas ça au hasard, comme beaucoup peuvent le faire, je prends de la B12, de la B9, etc. Mais nous avons besoin, sur les conseils du médecin, qui va dire, vous devez prendre ça et ça. Si bien que, par exemple, quelqu'un qui a une maladie de Parkinson, qui vit aujourd'hui, il va avoir du coup des carences nutritionnelles. Eh bien, on s'est aperçu, c'est les études qui le disent, que si on lui donne de la vitamine B2, B3 et B12, il va s'améliorer considérablement de sa maladie de Parkinson. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que ce monsieur a une maladie de Parkinson comme on l'avait par le passé, mais que sa maladie est devenue plus méchante parce que sa nourriture fait qu'il va devenir carencé. Et donc on est obligé de réapporter les carences.
Alors on va faire une petite pause et lancer le bobineau, on va continuer cette discussion très intéressante.
Merci beaucoup.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Merci à vous d'être toujours aussi nombreux. Soutenez Radio Courtoisie pour des émissions libres comme celle-ci. Vous pensez bien que si nous avions des annonceurs et que vous n'étiez pas les patrons de Radio Courtoisie, bien, nous ne pourrions pas avoir cette émission avec le professeur Humbert sur le livre « Qu'est-ce qui ne va pas dans mes intestins ?» Un livre qui casse, bien entendu, aussi tout ce qui est lié à l'industrialisation de la nourriture. Parce que les annonceurs, nous aurions des annonceurs du lait, annonceurs de je ne sais quelle marque
de gâteaux.
Voilà. Et donc, on nous aurait dit, mais écoutez, quand même, on vous donne l'argent à Radio Courtoisie, le professeur Humbert, il passe pas chez nous. Voilà. Ben non, nous, on n'est pas comme ça. C'est vous, les patrons, c'est vous qui choisissez la ligne, c'est vous qui nous financez. Et donc, du coup, nous avons ce matin le professeur Humbert. Qu'est-ce qui ne va pas dans mes intestins ? Professeur Humbert, édition Guy Trédaniel. Mais moi, je vais vous dire, ce qui se passe, c'est quand même une folie. C'est-à-dire que on nourrit déjà nos jeunes. L'éducation nationale est en quasi faillite. Ils apprennent que des, rien. Ils apprennent rien en réalité à l'éducation nationale. Si en plus le système, on va dire, les nourrit avec la lie de la nourriture et que ces jeunes sont en carencé même au niveau du cerveau, qu'ils ont, comme vous dites, il y a une recrudescence de TDAH et d'autres maladies psychologiques, d'autres maladies psychologiques, on va avoir une société, de fous furieux en fait. C'est vers sur quoi on va, hein. L'agressivité, on voit de l'agressivité, des jeunes qui viennent avec des couteaux à l'école, ça devient des jeunes qui s'insultent sur les réseaux sociaux, parce que on les pousse à ça par la nourriture, par l'école, etc.
Savez-vous, Maïk, que si vous tapez, même sur Internet, gluten, schizophrénie, vous allez voir les relations qu'il y a entre la prise de gluten et la schizophrénie et l'amélioration de la schizophrénie en supprimant le gluten. On n'a jamais imaginé des choses comme ça. Et j'ai eu plusieurs cas de patients traités pour une maladie psychique, psychiatrique, et qui va évoluer favorablement après la suppression du gluten dès lors qu'il était intolérant.
Et vous savez très bien, cher professeur, lorsque ces mômes sont diagnostiqués, qu'est-ce qu'on leur donne derrière ? De la rétaline.
Eh oui, voilà. C'est-à-dire qu'on corrige un truc, mais qui n'est pas là. On rajoute quelque chose et qui peut lui-même induire des effets secondaires, pourquoi pas.
Et vous connaissez la composition de rétaline, de la rétaline, cher professeur ?
Oui. Dites-moi.
C'est des produits quasiment dopants, en fait.
Oui, bien sûr. Oui.
Donc voilà, j'ai l'impression.
C'est des neurostimulants.
Voilà. Oui. Moi, j'ai l'impression, cher professeur, que. On nous empoisonne, ça c'est une chose, mais qu'on crée ce commerce, l'industrie alimentaire, qui nous amène après chez une autre industrie, celle des laboratoires.
Oui. Il faut l'envisager aussi comme cela, en effet.
C'est fou, hein.
Oui.
Alors, merci pour votre émission, vraiment très très intéressant. En est-il de même pour les produits laitiers, yaourts, fromages blancs ? Pourquoi le professeur ne parle-t-il pas du sucre raffiné ? Le professeur pourrait-il nous donner quelques remèdes naturels pour renforcer notre intestin ?
Oui, alors, lorsque je parle du lait, c'est bien entendu pas le lactose, comme beaucoup de personnes pensent le dire « je suis intolérant au lactose ». Non. Le lactose, oui, il y a des personnes qui manquent d'une enzyme qui s'appelle la lactase. Ce sont parfois des personnes qui habitent l'Est asiatique ou des personnes qui manquent. Donc, ils ont mal au ventre quand ils mangent du lait ou des produits laitiers. Il suffit qu'ils apportent des capsules, des gélules de lactase qu'ils trouvent à la pharmacie, ils n'ont plus mal. Mais ça, c'est une petite maladie enzymatique. Mais la plupart du temps, ce sont des douleurs liées à la caséine, lactoglucine. Quand on dit lait de vache, c'est bien sûr le lait, le beurre, les yaourts, les petits suisses, le fromage et la crème de vache. En revanche, celles de chèvre ou de brebis sont tolérées. Et j'ai demandé à un de mes amis nutritionnistes pourquoi celles-ci sont tolérées. Pour plusieurs raisons. D'une part, les protéines sont plus petites, donc moins agressives pour notre intestin. D'autre part, la vache, la chèvre sont moins traitées, entre guillemets, que les vaches, c'est-à-dire qu'elles mangent plutôt une herbe naturelle, etc. Donc, mais quand on parle du lait, bien sûr, c'est le yaourt également. Alors, comment nous prémunir de notre intestin? Vous savez que tout d'abord, si vous arrêtez le gluten, vous aurez presque plus mal aux articulations. Les douleurs tendineuses que vous avez, ces grosses douleurs dans les muscles, les articulations, toutes les personnes qui disent « j'ai une fibromyalgie ». La fibromyalgie est pour moi une maladie par souffrance psychique chez une personne qui a une maladie due au gluten et au lait de vache. Donc si on arrête le gluten et le lait de vache chez ces personnes, on va faire disparaître les douleurs au bout de 4 semaines.
Mais le gluten, on le trouve que dans le pain ou on le trouve dans d'autres produits ?
Oui, alors dans toutes les farines, si vous voulez, c'est tout ce qui concerne les farines. Donc pour faire du pain, des gâteaux, on en trouve dans les pâtes, bien sûr. On en trouve un petit peu dans le riz, mais ça c'est anecdotique et ça on n'a pas à s'en inquiéter. Mais le gluten,
mais,
c'est
mais si vous me dites, si vous me dites que voilà, acheter des produits transformés dits sans gluten, c'est pas bon. Comment on peut se faire des, je sais pas moi, même des pâtes, tiens, sans avoir ce fameux gluten?
Alors oui, alors il y a des pâtes sans gluten, c'est-à-dire que le fabricant a mis de la farine qui contient très peu de gluten. Et donc il y a, c'est surtout ça qui est important, c'est connaître le nom des farines. Il y a farine de sarrasin par exemple, il y a farine de châtaigne, la farine de riz. Il y a énormément de farines qui peuvent remplacer de blé.
C'est-à-dire que voilà, il faut... pour le coup, les gens doivent prendre du temps et peut-être parfois faire des choses eux-mêmes avec des farines qui ne soient pas de farine de blé, en fait. C'est ça.
Exactement. C'est exactement... On mange normalement, on fait du pain, des gâteaux avec du lait de coco, par exemple, pour remplacer le lait de vache ou du lait de chèvre. On va mettre des farines qui ne sont pas la farine de blé, mais la farine de sarrasin ou la farine de châtaigne. Et je peux vous dire que vous avez du pain et des gâteaux délicieux.
Mais là, ça va à l'encontre de ce que la société, enfin le système demande. Parce que qu'est-ce que demande le système ? Le système capitaliste demande justement à ce que vous vous nourrissiez le plus vite possible, que vous ayez de moins de pauses possible pour être le plus productif possible. Et là, pour le coup... les gens ne prennent plus le temps. Est-ce que d'ailleurs, ils ont le temps de le faire ?
Oui, alors une fois que le pli est pris, et les personnes doivent prendre du temps. Tout d'abord, elles doivent se poser avec entre les mains le régime. Le régime, le terme n'est pas très bon, mais c'est un texte ici présenté de façon agréable qu'on lit, on va surligner, on va regarder tout ce qu'il faut faire. Et on va faire une petite liste de courses, on va aller dans les magasins. Pas forcément des magasins spécialisés, parfois on est obligé. Mais vous allez trouver cette farine de sarrasin dans votre grande surface, mais vous ne saviez pas qu'elle existait, parce qu'on ne l'a pas mis au premier rang, etc. Et à partir de là, vous tapez sur Internet comment faire un pain avec de la farine de sarrasin, comment faire un pain avec ceci, cela, et vous avez toutes les solutions. C'est incroyable. Alors ça demande un petit peu de travail personnel, et très souvent, quand la maman s'implique, parce que dans une même famille, on a souvent les mêmes particularités, eh bien, ça redonne de la convivialité à la table et on fait de la nourriture qui est saine. Ça change la vie des gens. C'est incroyable. Je crois que de ma pratique médicale, c'est probablement les mesures qui ont changé le plus la vie des gens. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit.
Alors, cette auditrice, on a parlé aussi du sucre raffiné.
Du sucre, oui. Alors, bien sûr, le sucre, vous savez qu'on consomme énormément de sucre. Mon grand-père mangeait 35 kilos de sucre dans toute sa vie. En toute une vie, 80 ans. Eh bien, aujourd'hui, les 35 kilos, on les mange en une année. Donc, ça ne va pas.
Ça veut dire 80 fois plus
de sucre. Rendez-vous.
C'est fou.
C'est fou. Donc, ce sucre est à l'origine de beaucoup de maladies, notamment des diabètes, des surpoids, etc. Donc, chacun doit faire attention. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu des diabétiques guérir du diabète après suppression du gluten. Parce que la suppression du gluten, du lait de vache, va entraîner des modifications comportementales dans la nourriture qui va conduire aussi à améliorer le diabète. Il y a des publications scientifiques là-dessus. Ce sucre, on doit bien sûr faire attention, mais comme beaucoup de choses sucrées, c'est à base de gluten, dès lors qu'on supprime le gluten, il y a beaucoup moins de sucre.
Ah oui, c'est vrai, parce que gluten et sucre sont liés.
Ah oui. un gâteau, une pâtisserie, vous avez vu ce que met la cuisinière, la pâtissière comme sucre, elle prend le gros paquet de sucre, elle met le paquet de farine, c'est à peu près la même quantité, j'allais dire, je suis pas pâtissier, mais j'ai l'impression. Donc si vous enlevez le gluten, vous allez enlever le sucre en même temps.
C'est très important ça pour le coup, voilà. Chère madame, sucre et gluten sont liés. Bonjour, j'ai un fils de 40 ans, il y a quelques années, a arrêté le gluten et les produits laitiers pendant 4 ans pour soigner un psoriasis. Oui. Et cela n'a eu aucun effet. Que faire alors?
Alors, 80% des personnes qui ont un psoriasis ont cette intolérance au gluten et probablement aux protéines de lait de vache. Tout d'abord, il faut s'assurer que si la soustraction a été faite, elle a été très bien faite. Il y a des personnes qui disent j'arrête le lactose, et donc ils boivent du lait, mais sans lactose. C'est pas ça qu'il faut faire, c'est l'absence de lait. Il y a des personnes qui disent j'ai supprimé le lait, mais qui mangent des fromages, du beurre, des yaourts, des petits suisses. Non, vérifiez qu'on a bien extrait, supprimé tous les produits laitiers de vache. Il en est de même avec le gluten. Et bien sûr, avec ça, on a quand même des très très bons résultats.
Si mais ce n'est pas, oui, mais c'est pas à 100%.
C'est jamais en médecine, jamais à 100%. D'accord. Parce qu'il y a probablement d'autres choses. Imaginez, ce monsieur, là, va avoir des déficits en certaines vitamines. Ça suffira pour entretenir le psoriasis. Imaginez qu'il a une maladie infectieuse surajoutée, ce qui est souvent le cas. Ça suffira pour entretenir le psoriasis. Donc il faut avoir cette vision globale qui va permettre de dire oui ou non, dans son cas, il a besoin du régime ou pas.
C'est-à-dire que, Allez-y.
J'ai arrêté 4 ans, c'est pas la peine d'arrêter 4 ans. Si au bout de 3 mois, on n'a pas vu d'évolution favorable, c'est qu'il y a quelque chose dans la prise en charge, dans le traitement qui est mal fait. Donc n'attendez pas 4 ans, ce qui doit arriver rapidement.
Qu'est-ce qu'il doit faire ce monsieur du coup?
Eh bien, ce monsieur doit avoir, à mon avis également, il doit avoir une prise en charge globale, ce qu'on appelle la médecine interne, qui va permettre de voir est-ce qu'il ne prendrait pas un médicament qui donne le psoriasis. Il y en a tant que ça, il y a le lithium, il y a les bêta-bloquants, il y a les IEC, il y a le plaquénil. Il y a énormément de médicaments qui donnent du psoriasis. Donc, vérifiez tout ça, et puis allez chercher, toujours dans des formes particulières de psoriasis, c'est une particularité. Mais on doit pouvoir y arriver.
Alors, en effet, le docteur Seignalet a parlé de tout cela des années 80, l'alimentation, la troisième médecine, préfacé par le professeur Joyeux récemment, ainsi que la BD La naturopathie pour tous aux éditions Souli ou sur internet. Bravo de parler enfin de la prévention, que ton alimentation soit ton médicament principal. Et oui, c'est vrai, la nourriture, c'est tellement important.
C'est Hippocrate, et effectivement, la personne a repris la phrase d'Hippocrate, que la nourriture soit ton médicament.
Bonjour, question. D'où proviennent les kystes biliaires? À titre personnel, je mange 2 fois par jour. Vers 18h, je mange une pomme et c'est tout. Je reste persuadé que pour un adulte, 2 repas par jour est suffisant. Alors, question. Que pense le professeur de la farine de sarrasin et du camut dans l'attente de vous entendre?
Oui, alors effectivement, alors déjà les kystes biliaires, ce sont des petites dilatations sur les canalicules biliaires. Vous savez que le foie est traversé de petits canalicules biliaires qui vont recueillir la bile pour l'amener dans la vésicule biliaire et aller dans l'intestin, puisque pour notre digestion, nous avons besoin de bile et nous avons besoin de suc, S-U-C, pancréatique. Donc ces deux produits doivent arriver dans l'intestin d'une façon ou d'une autre. Qu'il y ait des petites dilatations, des petits kystes, ça c'est pas grave. Bon. D'autre part, que penser de la farine de sarrasin? Je n'en pense que du bien. Et également le camut, vous pouvez voir donc dans le livre, je n'ai pas la prétention de connaître par cœur toutes ces farines particulières, mais il est parfaitement dit, celle-ci vous pouvez la prendre, celle-ci vous ne devez pas la prendre, etc. Donc il y a beaucoup de farines autorisées dans les régimes sans gluten pour cette maladie.
Après, ce monsieur a l'air d'être quand même très à cheval. Ça va peut-être être pour monsieur, mais c'est pas évident que les gens dans leur ensemble vont manger juste une pomme à 18h.
Ah oui.
C'est quand même, là, monsieur-là est pas loin et bravo à lui, hein, parce qu'il a une force, une cote de conviction. Mais la masse n'est pas comme ça.
Non, non. Mais après, chacun doit mener sa vie comme il l'entend. Bien entendu, on ne peut pas lui faire de reproches. S'il va bien comme ça, il n'y a aucun problème.
Bien sûr. Mais alors, du coup, ça, par exemple, manger, lorsqu'il dit qu'il faut manger 2 fois par jour, Et qu'est-ce que vous en pensez de ça?
Oui, ça suffirait largement. D'ailleurs, il suffit soit de se reporter sur les peuplades qu'on peut rencontrer de ci, de là et voir un petit peu comment ils se débrouillent. C'est comme ça, par exemple, qu'on s'est aperçu que le lait de vache était un facteur d'acné. Le lait donne de l'acné. Donc, si quelqu'un a de l'acné ou si quelqu'un a une maladie de Verneuil, vous savez, ces kystes au niveau du périnée qui sont vraiment très désagréables, des kystes qui suppurent, etc. Arrêtez le lait. Et comment s'en est-on aperçu? Parce que pendant longtemps, le médecin disait non, non, le lait, on n'a jamais entendu parler, vous pouvez en prendre si vous avez de l'acné. Non. Quelqu'un a visité des peuplades, je crois que c'est en Amazonie, et ces personnes-là n'avaient jamais eu un seul bouton d'acné. Pas de pustule, pas de papule, pas de comédon, rien. Et on s'est interrogé et on a vu qu'ils ne buvaient jamais de lait d'animal. Jamais, jamais. Et donc, on en a tiré la conclusion. Si vous ne prenez pas de lait animal de toute votre vie, vous ne ferez jamais d'acné. Aujourd'hui, il y a des études scientifiques qui ont montré que si vous soustrayez, si vous enlevez le lait à quelqu'un qui a de l'acné, il va guérir de son acné. Si vous lui redonnez du lait, il va réaggraver son acné.
C'est fou, hein. Quand je pense que... Mais d'où ça vient le fait que, les médias se sont mis à tout le temps parler du lait, à faire de la publicité sur le lait. Les écoles, à un moment donné, donnaient des fois des petits packs de lait pour les goûter, etc. D'où ça vient, c'est quoi? C'est l'industrie qui a imposé ça?
Alors, vous savez, il y avait une raison. Ma mère était institutrice, je me souviens de cela. Il y avait le verre de lait tous les matins.
C'est ça?
Pour les enfants. Mais c'était pour écouler les surstocks. Parce que si on n'écoulait pas les surstocks, à ce moment-là, le prix du lait allait s'effondrer. Donc, il fallait maintenir... Il fallait protéger la profession des agriculteurs et vous savez combien ces personnes sont dans nos cœurs de tout un chacun parce qu'ils font un travail remarquable. Mais là, à l'époque, c'était pour ça.
Et puis, c'était juste pour ça en fait.
C'était rien que pour ça. À cette époque, c'était que pour ça. C'est un ministre qui avait eu l'idée. Ensuite, c'est la gastronomie, bien entendu. Donc du bon fromage et on est quand même le pays des fromages. On ne peut pas le nier. On ne va pas arrêter de manger du lait de vache pour autant à cause de cette émission. Mais on doit être prudent si vous avez une maladie... inflammatoire de l'intestin. Donc,
Tiens, et par exemple, le verre de vin, tiens. À l'époque aussi, avant-guerre, je crois, on, dans les écoles, on buvait ce fameux verre de vin.
Oui. Oui, alors à l'école, ça, je ne sais pas. Mais
si, je crois que c'est les années 50 où on a arrêté le fameux verre de vin. C'est pas à conseiller, ça, par contre.
Oui, non, c'est pas conseillé. Mais vous savez,
il y avait des surstocks aussi de vin à l'époque.
Il ne faut pas le faire boire aux enfants. Mais c'était quand même une sorte de tradition. Mon grand-père, quand on arrivait à 14 ans, on devenait adolescent, il nous faisait goûter un petit peu de verre de vin et il nous disait « on fait champoro ». Je ne sais pas si vous avez connu ça.
Non.
Un petit peu de vin dans le café au lait et ça y est, on devenait un homme. Vraiment, c'était une petite goutte, quoi.
Alors, message d'un auditeur, le charme discret de l'intestin, best-seller 2015 de Julia Enders.
C'est ça.
Bravo de parler enfin de l'intestin. La mort commence dans le côlon. Ça va veut dire, es-tu bien allé à la selle aujourd'hui?
Oui.
C'est marrant, ça. Je ne savais pas.
Oui, alors quand on dit à quelqu'un, comment vas-tu? L'idée, c'est vas-tu bien à selle? C'était cette question-là au Moyen-Âge. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien en toilette? Voilà, en gros, c'était ça. Donc, aller aux toilettes régulièrement tous les jours et faire un bon caca, c'est un signe de bonne santé. Le monsieur a employé un terme dont il faut se méfier, le côlon. Non, 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 non. La plupart des choses se passent dans l'intestin grêle. Et c'est pour ça qu'on a tellement d'erreurs diagnostiques, parce qu'on va regarder que le côlon... Non, il faut s'intéresser à l'intestin grêle, le petit intestin qui fait 7 mètres de long, dans lequel se passent les phénomènes d'absorption, là où les vitamines sont absorbées. Et on sait même tellement de choses que si votre vitamine B12 est basse dans vos prises de sang, on sait quel est l'endroit qui est malade dans l'intestin. Il s'appelle l'iléon. Donc, tout ça, on doit faire une anatomie de cet intestin pour connaître l'endroit où il est malade. Et par quoi il est malade? Est-ce qu'il est malade des parasites? Est-ce qu'il est malade par une irritation due au gluten, due au lait de vache, etc. Donc parlons plutôt du petit intestin ou de l'intestin globalement, plutôt que du côlon.
Les questions affluent, cher professeur.
Merci.
Que faire lorsque, après consommation de farine de sarrasin, il existe des douleurs intestinales et que le transit accéléré des sels acides et liquides?
Voilà, très bien. Donc ça veut dire qu'il y a la maladie inflammatoire de l'intestin. La Mickey, elle est là, elle est là. Donc, supprimer les aliments qui sont caustiques, je les appelle caustiques pour, avec le toxique caustique, ça ne suffit plus. Il faut un médicament. Et là, on rentre dans le cadre de la maladie inflammatoire de l'intestin. Et c'est là où se posent beaucoup de problèmes. J'ai en tête un jeune patient. Sa sœur a une maladie de Crohn. Lui a des douleurs terribles, typiques de la maladie de Crohn. Les mêmes. Vous allez sur un livre. Mais sous prétexte que sa coloscopie est normale, personne ne veut le traiter. C'est malheureux. Alors qu'il est évident que si on lui donne le médicament du Crohn, il va guérir de sa maladie. Simplement, le Crohn, on ne le voit pas. Eh bien, il faut savoir que 50%, 40 à 50% des cas de Crohn, on ne le voit pas. Et pourquoi faudrait-il le voir? Est-ce que le rhumatologue va vouloir avoir des radios, des articulations dégradées pour traiter son malade? Non, il sait que les douleurs articulaires sont de telle nature, de tel type. La radio est normale, il ne va pas dire « vous n'avez rien ». Il va dire « je traite ». Voilà. Eh bien, on devrait arriver à ça. Les analyses exploratoires de l'intestin ne montrent pas la maladie. Pour autant, toute l'histoire et la biologie plaident pour cela. On traite. Et on voit le résultat. On n'a que ça à faire. 4 semaines plus tard, est-ce que ça a été bénéfique ou pas ?
Bonjour, docteur. Moi et mes enfants ne pouvons plus consommer de produits laitiers car ça nous provoque des crises d'eczéma. Il n'est pas normal que l'homme ne supporte pas le lait, alors que c'est un aliment qui est consommé depuis la nuit des temps. Connaissez-vous la maladie du foie gras humain? La stéatose hépatique non alcoolique touche environ 200 000 personnes en France et se caractérise par une accumulation de graisse dans le foie pouvant conduire à une inflammation puis à la cirrhose. Cette accumulation de graisse est due à la surconsommation de sucre raffiné. Oui, c'est vrai, ce fameux sucre. Oui. Ces fameux sucres. Mais oui, mais c'est vrai, mais... Madame le dit, il n'est pas normal que l'homme ne supporte pas le lait alors que c'est un aliment qui est consommé depuis la nuit des temps.
Ben oui, bien sûr. Alors, il ne supporte pas parce que notre intestin s'est fragilisé petit à petit avec l'évolution de l'être humain. On a un intestin qui est beaucoup plus fragile avec un tissu conjonctif qui est plus lâche et donc les cellules tiennent moins bien sur ce tissu conjonctif. Et d'autre part, les particularités qu'on a vues précédemment du lait font que ce lait n'est pas bien toléré. Alors, cette stéatose, oui, à force d'avoir cette maladie inflammatoire chronique, il va y avoir des dépôts de substances graisseuses dans le foie qui s'appelle la stéatose, qui va entraîner une augmentation des gamma-GT, une augmentation de la phosphatase alcaline, tout ce que les médecins gastro-entérologues et hépatologues connaissent bien, pour aboutir à la stéatose qui peut être une cause de cirrhose pour finir. Aujourd'hui, on a des cirrhoses du foie qui ne sont plus liées à l'alcool, elles le sont encore, mais qui sont liées à l'alimentation délétère.
Ce fameux sucre, en fait. Parce que moi, j'ai vu dans une étude que entre il y a 20 ans et aujourd'hui, les industriels mettent dans l'ensemble des aliments 50% de sucre en plus. Enfin, c'est hallucinant.
Ah oui. Hallucinant. Lorsqu'on regarde ce qu'il y a dans une bouteille de jus de fruits, de pétillant, de boisson gazeuse, mais c'est c'est presque la moitié d'une boîte de sucre. C'est incroyable.
Mais je comprends pas comment se fait-il que l'industrie de la betterave, etc., se porte aussi mal en France. Il y a du sucre partout.
Alors, c'est peut-être pas ce sucre-là, d'ailleurs. Et oui, parce qu'on en vend beaucoup du sucre, c'est vrai.
Il y a que ça. Enfin, d'ailleurs, tiens, moi j'utilise, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'utilise une application qui s'appelle Yuka.
Oui.
Est-ce que ça, parce que bon, moi je n'ai pas souvent le temps non plus de cuisiner. Est-ce que, par exemple, quand on fait ses courses, ce type d'applications peuvent être une solution?
Oui, ça peut être une solution pour beaucoup de choses. Beaucoup de personnes, par exemple, qui vont être intolérant au sulfite. Par exemple, quelqu'un qui boit du vin blanc, il va avoir mal à la tête. Quelqu'un qui prend de la sauce de salade dans des petites bouteilles en plastique, il va avoir le nez qui coule, ou il va tousser, ou il va faire de l'asthme. Cette personne, avec plein d'autres exemples, intolérant aux crevettes, etc., il est intolérant au sulfite. Dans ces cas-là, cette application va dire, attention, cet aliment contient des sulfites. On a la même chose avec contient du gluten, contient des colorants, contient ceci, cela. Donc oui, une application de cette nature est très utile.
Voilà, c'est une application Yuka. Bon, je ne suis pas là pour en faire de la pub, mais...
Elle est gratuite, je crois.
Elle est gratuite. et vous mettez votre téléphone face au code barre d'un produit, et puis vous avez en gros, on vous dit oui, c'est vert, il y a moins de sucre, il y a moins de ceci, il y a moins de cela, et c'est rouge, il y a trop de ceci, il y a trop de cela.
C'est ça.
Bonjour, que peut-on penser des produits fermentés comme le kéfir, lait fermenté, et le pain au levain, dont le gluten est partiellement dégradé en chaîne plus courte?
Oui, alors là, ce sont des très très belles idées. Et j'avais lancé un petit débat sur ma page Facebook à ce sujet, sur le kéfir. Parce que la littérature médicale laissait penser que ces produits fermentés étaient bénéfiques en cas de maladie inflammatoire de l'intestin. J'ai été assez surpris. Parce que la moitié des personnes se sont vues aggravées avec le kéfir. D'autres ont vu des améliorations spectaculaires. Donc on n'a pas de choses très précises, affirmatives à ce sujet. C'est un petit peu, ça dépend des cas, il faudra étudier pourquoi certains tolèrent le kéfir ou les farines au levain, par exemple, et d'autres ne supportent pas. En principe, y a de tout. Donc il y a encore des finesses et des travaux à faire pour comprendre tout ça.
Alors, même informé, pourquoi n'arrive-t-on pas à changer nos habitudes alimentaires ? Le fond du problème est là, sinon tout le monde mangerait bien. Je suis pas très sûr, hein, parce que quand les jeunes mangent les tacos ou les crustis, là, je suis pas certain qu'ils savent si pour eux c'est bon pour la santé ou pas. Hein. Voilà. Je suis pas sûr. Hein.
Ils ne se doutent pas d'ailleurs.
Voilà, ils se doutent pas. Il y a quelque chose dont ils pensent que c'est bon au niveau du goût, ils y vont et point. Hein. Ben je pense. Hein.
Et vous savez qu'on met dans ces produits des molécules pour vous pousser, pour être addictif à ces substances.
Il y a de la chimie, quoi, derrière.
La chimie, ces petits tubes ronds où vous avez des sortes de gâteaux ondulés comme ça,
ouais.
Et que dès que vous avez mis la main dedans, vous ne pouvez plus vous arrêter. C'est parce qu'il y a des molécules chimiques qui stimulent dans votre cerveau cette addiction aux produits. Et donc, oui, il y a quand même des choses qui ne sont pas normales dans l'alimentation.
Alors,
qui nous pousse à manger de travers.
Alors, monsieur continue, on sait tous ce qui est bon et ce qui est mauvais, mais personne n'y arrive. Quel micro-mécanisme nous en empêche? Comment faire?
C'est les habitudes, je pense, c'est les habitudes, et puis peut-être manque d'éducation. Auparavant, dans les écoles, on apprenait à manger, on apprenait à coudre, on apprenait à faire des choses comme ça.
Mais regardez, donc, tiens, je vais vous donner un exemple qui est très simple. Lorsque je vais au bureau, pour géopolitique profonde, je passe très souvent devant, j'arrive déjà sur les coups de 11h, 11h30, midi, et je passe devant des lycées. Moi-même, quand je finis par déjeuner, je repasse devant ces mêmes lycées pour mes émissions du soir. Et qu'est-ce que je vois? Je vois un maximum de mômes dehors, qui achètent chez des commerçants du coin, les Franprix, etc., etc. Voilà. Bon, parce que nous sommes placés dans, en gros, dans le triangle d'or de Paris, et donc forcément, ce sont des coins à bureaux, et il y a aussi énormément de lycées. Donc forcément, il y a ces fameux restaurateurs de midi, avec aussi les Franprix, etc. Moi, je vois énormément de ces mômes dehors, chez ces restaurateurs de snacks et compagnie, ou dans les Franprix, les Carrefour City, etc. Moi, à mon époque, et je ne suis pas né sous Louis XIV, j'étais à la cantine. Mes amis étaient à la cantine. Nous étions à 95% tous à la cantine. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ce rapport s'est inversé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et donc, du coup, on voit un maximum de gosses, de gamins, de mineurs, enfin de 10, 15, 16 ans, j'en sais rien, qui mangent dehors et ne mangent plus à la cantine, justement.
C'est ça. Et ils mangent ce qu'on leur a donné des piécettes et ils vont à la boulangerie et ils achètent un croissant, un chausson pomme, des choses comme ça, je crois.
Hein. Ben oui, c'est ça.
Et ça, c'est pas bon du tout.
Et qu'est-ce qui fait... moi, en plus, ce que j'ai appris d'ailleurs, c'est que dorénavant, la cantine, en tout cas à Paris, c'est quasiment plus cher. Vaut mieux mettre son gosse, lui donner, je sais pas moi, 7-8 euros pour qu'il aille acheter un sandwich à la boulangerie parce que c'est moins cher, que d'aller bouffer à la cantine.
Ah ouais.
Vous imaginez jusqu'où on va,
ah
quoi.
Non, mais c'est terrible.
Ça veut
c'est
dire
terrible.
Qu'on paye des impôts nationaux et locaux pour les écoles, pour que nos mômes bouffent le moins cher possible à la cantine, et la cantine, dorénavant, est plus chère que d'aller à la boulangerie du coin ou à Franprix.
Oui. Oui.
Et je peux vous dire, il faut regarder ce que ces mômes, ils achètent.
Oui.
C'est-à-dire que ce seront vos futurs patients, hein, à 100%.
Oui, oui. Mais vous savez, Mike, aussi, il y a encore d'autres choses qui se rajoutent à tout ça.
Allez-y.
L'enfant a peut-être peur d'aller à la cantine parce qu'il pourrait être harcelé. On voit des troubles du comportement d'autres élèves à l'égard de cette personne, etc., etc. Le problème est hyper complexe. Et pousser quelqu'un à aller à la cantine, il faut voir pourquoi il n'y va pas.
Moi, je le vois, les gosses sont quasiment tous dehors.
Eh oui.
Donc, c'est fou.
Sur le trottoir.
Vous le voyez vous-même, chez vous aussi. Vous êtes à Besançon.
Oui, 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 on voit ça.
Donc, c'est pas juste un phénomène parisien.
Ah non, on voit ça. Et puis, quand on est sur le trottoir, puis qu'on a 15-16 ans, mais on va allumer la cigarette. Et puis, il y a des troubles de comportement qui vont découler de tout ça.
C'est fou. Mais on dirait qu'on pousse les nouvelles générations à faire des conneries, quoi.
Oui. C'est vrai.
Donc voilà, si vous avez des mômes ou des petits-enfants, voilà, l'éducation commence vraiment par la nourriture, quoi. Moi, je le pense, hein, parce que... Et je remarque souvent les parents calquent leur propre jeunesse et adolescence avec ce qui peut se faire aujourd'hui. Mais ça n'a plus de rapport. Je veux dire, moi, quand j'avais 16 ans, c'est-à-dire il y a presque 30 ans, ça n'a pas de rapport avec un môme de 16 ans d'aujourd'hui.
Il
faut dire les choses. Hein.
Ouais, et donc, bien sûr.
Moi, je dis souvent aux gens, il faut être quasiment un dictateur.
Oui. On ne reconnaît pas. Il faut interroger ses propres enfants pour leur demander, parce qu'on ne sait pas comment ça se passe aujourd'hui. Et ça se passe comme ça. Effectivement, ils mangent avec les copains.
Alors, vous avez une jeune fille.
Oui, oui, oui.
Et vous voyez quand même que votre fille, quoi, après une vingtaine d'années, je crois.
Oui, 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 un petit peu plus, mais elle essaie de manger correctement.
Parce qu'elle a un père qui est professeur en médecine, mais oui, tout le monde n'a pas la chance, quoi.
C'est ça, elle m'a entendu parler, puis le bon sens, et puis un grand-père paysan, surtout. Mon grand-père était paysan, donc le bon sens populaire aussi, on retrouve ça.
Mais vous voyez, par exemple, avec votre fille, le différentiel générationnel avec ce qui a pu se faire.
Ah oui, il faut, bien sûr. Ah, ça n'a plus rien à voir avec ce que nous étions, nous, et bien sûr ce que nos parents étaient.
C'est dingue. Hein. La société, moi je vais vous dire, la société a énormément changé. Et ce changement, en plus, ça a été accéléré après 2020 et la crise sanitaire, on a l'impression de vivre dans un autre monde.
Ah oui, ah oui, c'est vrai. Ça, on le voit parce que ces maladies que je vois aujourd'hui, pour lesquelles on a réussi à mettre des noms dessus, c'est quelque chose qui était inenvisageable par le passé. On n'avait jamais vu ça. Donc, ça pose des questions et ça angoisse en même temps.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire c'est quoi ? C'est multiplié par un chiffre, par exemple ?
Oui. Ben oui. Aujourd'hui, nous disions, il y a encore 5 ou 6 ans, que cette maladie-là liée au gluten touchait une personne sur 10. Probablement, aujourd'hui, c'est une personne sur 7, peut-être même sur 5. C'est incroyable, la vitesse. Et donc, tout ça crée des maladies secondaires, hypertension artérielle, diabète, obésité, hypercholestérolémie. Tout ça, c'est des maladies qui suivent cette pathologie, ce qu'on appelle les maladies inflammatoires, vous savez, chroniques. Et donc, bien sûr, ça fait du marché pour les médicaments, bien entendu.
Bonjour monsieur et merci de votre présence. Le professeur Joyeux dit que le coefficient de taille relatif au lait produit par la vache, qui est donc dédié au veau, est logiquement trop riche pour nous. Alors que selon lui, un autre lait de ce genre de coefficient, celui de chèvre, est dérivé. Que notre seul roi, seigneur et sauveur Jésus-Christ vous accorde toutes ses grâces ainsi qu'à tous ceux qui vous environnent. Oui, voilà, on en a parlé. Du lait de chèvre, voilà. Si les gens aiment le lait, la chèvre. Et tout ce qui est soja, tout ça, qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, on peut, soja, tous ces laits végétaux sont pas mauvais, sauf le lait d'avoine. Pas de lait d'avoine.
Pas de lait d'avoine, pourquoi ?
Non, parce que l'avoine, c'est une céréale qui contient de l'avénine. La vénine, c'est une sorte de gluten. Donc, il ne faut pas prendre de risques. On pourra le faire après. Une fois qu'on aura calmé la situation, que ça va mieux, on peut réintroduire petit à petit et prendre du lait d'avoine. Mais il y a tellement d'autres laits de végétaux que c'est incroyable. D'ailleurs, on trouve des boîtes dans les supermarchés très facilement.
Et donc, voilà, ça, c'est à conseiller, même si ça vient d'industriel.
Oui, parce que tout n'est pas mauvais, heureusement. Et on n'a pas le choix aussi. Il faut bien se nourrir des personnes.
Alors, des questions arrivent, cher Arnaud. Et là, il m'apporte encore une nouvelle question. Voilà, ça a été bombardement de questions. Je rappelle, professeur Humbert, pour son livre « Qu'est-ce qui ne va pas dans nos intestins ?» voilà, aux éditions Guy Trédaniel. Bonjour messieurs, faut-il se déparasiter régulièrement ? Merci de votre réponse, bien courtoisement.
Oui, alors merci pour cette question. Vous savez que les parasites, donc c'est une grande part de mon activité médicale et de ma vie, parce que je pense que j'ai aidé beaucoup de personnes à sortir de leur mal-être, de leur maladie, grâce au traitement antiparasitaire. D'ailleurs, je raconte toujours cette petite histoire. Tiens, j'allais vous voir un jour dans une soirée, je faisais la queue, il y avait quelqu'un derrière moi qui me tape sur l'épaule et qui me dit « Vous êtes professeur Humbert ?» Je dis « Oui ». Et cette personne se met à pleurer. Je lui dis « Mais pourquoi vous pleurez ?» Il me dit « Vous m'avez sauvé la vie ». Je lui dis « Mais je ne vous connais pas, comment pouvez-vous dire ça ?» Il me dit « Non, mais j'ai lu votre livre sur les parasites, j'ai su que la maladie que j'avais, les démangeaisons qui étaient épouvantables, étaient dues aux parasites. Elle s'est traitée, elle a guéri de cela. » Donc les parasites, oui, c'est très important. Et plus vos intestins sont abîmés par la nourriture ou par une maladie, plus les parasites vont venir. Or, les parasites font perdre des protéines dans l'intestin, baissent l'immunité, nous l'avons vu, et favorisent des maladies virales comme le zona, la varicelle, la mononucléose infectieuse, l'herpès, le papillomavirus, c'est des femmes qui ont des frottis perturbés. Donc, frottis du col qui dit « attention, il y a peut-être un cancer qui va venir », eh bien, pensez que les parasites derrière peuvent accélérer tout ça. Donc, les parasites, il faut traiter. Alors, les manifestations des parasites, c'est souvent, chez l'enfant, de l'énurésie, pipi au lit, de l'excitabilité, les cheveux qui grattent, les oreilles qui grattent. C'est toujours loin de l'endroit où se trouvent les parasites. Et chez la femme, ça va être des soi-disant cystites. La femme dit « j'ai des infections urinaires à répétition ». Non, ce ne sont pas des infections, c'est des fausses infections dues à la présence de parasites intestinaux, les mycoses vaginales. Donc on sait qu'on a des symptômes. Et pourquoi faut-il se traiter tous les 6 mois? Je ne le savais pas auparavant. Mais ce sont mes malades chez qui je trouve les parasites. Je traite, ils sont heureux, ils vont bien. Et 6 mois plus tard, ils me rappellent « docteur, c'est revenu ». Qu'est-ce qui est revenu? Soit la toux, parce qu'ils toussaient, soit les démangeaisons, soit les fameuses cystites. J'étais « Ah bon, ça est revenu ?» Oui, je retraite, ça guérit, etc. Et plusieurs personnes m'alertent au bout de 6 mois. « Attention docteur, les symptômes reviennent. » Donc maintenant, j'ai pris la décision de faire un traitement préventif au 6e mois pour éviter que la maladie recommence.
Alors comment il faut traiter ces parasites? Est-ce que les gens peuvent le faire d'eux-mêmes? Ils doivent consulter le médecin? Comment ça se passe?
Oui, alors il y a deux solutions. Il y a déjà le pharmacien peut lui-même délivrer un médicament qui s'appelle Fluvermal. Donc il va vous le délivrer sans ordonnance, et ça, c'est assez facile, c'est un vrai médicament. Soit votre médecin va le prescrire, mais le médecin, il n'est pas encore convaincu de cela. Il va falloir que petit à petit, les informations viennent à lui, mais il faut qu'il sache qu'effectivement, c'est très important de soigner. Il va prescrire un médicament, albendazole par exemple. Et puis, donc ça, ces médicaments, quand il y a des symptômes, il faut les prendre parce qu'ils vont tout de suite arrêter et trouver qu'il y avait bien des parasites puisque les symptômes vont disparaître. Bon, et puis, quand on est un vieux de la vieille et qu'on se traite déjà depuis longtemps, qu'on sait qu'on a des parasites régulièrement, on peut utiliser les méthodes naturopathiques, dont je parle d'ailleurs, je donne les noms du clou de girofle, du brou de noix, toutes ces méthodes naturelles, naturopathiques, qui traitent les parasites, et ça c'est dans le livre « Les parasites ». Vous savez que le docteur Clark a fait beaucoup pour ça, mais c'est un peu difficile quand même de suivre le schéma de Madame Clark. Donc personnellement, j'ai plutôt tendance à prendre des médicaments, ça se traite tout de suite. Mais oui, il y a des méthodes naturelles qui peuvent être faites, et il y a des personnes qui s'entretiennent très bien comme ça.
Alors, un auditeur nous dit « Il faut insister sur le fait que le sucre, en particulier le sirop de glucose, ajoutés sans mesure et souvent comme produit principal dans les produits industriels, vont nourrir tout petit cancer débutant et tout cancer avancé. C'est même un analogue du glucose qui est utilisé comme traceur pour la recherche de cellules cancéreuses avec le TEP scan, tellement les cellules cancéreuses travaillent en anaérobiose,
oui.
Ce qui augmente leur besoin de glucose de façon très importante.
Oui. Vous voyez que les personnes se renseignent beaucoup. Cette personne a des connaissances. Elle sait que le PET scan, effectivement, le marqueur est basé sur le marquage des cellules cancéreuses qui sont actives et qui utilisent le sucre pour se développer. Donc, le sucre n'est pas bon. Effectivement, c'est un facteur de diabète, mais c'est un facteur d'insulinorésistance, donc de baisse d'immunité et donc de cancer également.
Mais donc, le sucre, c'est quelque chose qui vous rend addictif, pour le coup.
En plus, bien sûr. Donc, le sucre est vraiment pernicieux. Et la maladie que l'on connaît, c'est le diabète, mais il faut bien savoir qu'il y a énormément d'autres troubles liés au sucre qui n'est pas le diabète.
Alors, bonjour. Quelles seraient les 2-3 habitudes alimentaires universelles très faciles à suivre dans notre quotidien ?
Suivre au quotidien, c'est vérifier que vous avez les rations qu'il vous faut en termes de vitamines et de nutriments. Savoir qu'avec l'âge, ou en fonction des maladies que vous avez, votre intestin ne travaille plus de la même façon, et que vos besoins sont donc accrus. Un intestin d'une personne de 80 ans n'est pas le même intestin qu'une personne de 20 ans. Par exemple, en termes de vitamines, et notamment vitamine C, on sait que l'alimentation n'apporte pas suffisamment de vitamine C et que nous sommes obligés de faire appel à des compléments alimentaires de vitamine C. Donc, règle générale, attention, ne pas consommer, si vous êtes en bonne santé, trop de gluten, trop de produits laitiers.
Mais faut dire aussi, bien sûr, mais faut dire aussi une chose aux gens. Rappelez-vous, à l'époque, nos grand-mères cuisinaient, nos mères aussi, etc. Enfin, je veux dire, ça prenait du temps. Oui. Est-ce que aujourd'hui, moi je pense pas qu'il y a 2-3 trucs très faciles, machin, à prendre et c'est bon. Moi je pense que, enfin c'est mon avis, hein, que question de nourriture, même si la société est contraire, eh ben il faut prendre le temps, autant. Bah, je pense. C'est-à-dire que le truc très facile qu'on va prendre tac-tac comme ça, là, et puis voilà, et puis c'est bon, on suit ça au quotidien, et puis c'est bon dans la bonne santé, je pense que c'est pas possible.
C'est vrai. Oh, oui. Ça doit s'intégrer dans sa vie. Celui qui doit se lever très tôt le matin, prendre sa mobylette pour aller au travail, etc., il n'a pas le temps de préparer son petit plat et de
Alors,
manger.
Monsieur aussi demande un traitement alimentaire pour les mycoses aux ongles. Alors pareil, pas de gluten, pas de sucre, pas de lactose.
Non, parce que les mycoses, non, faut pas tout mettre, effectivement, faut pas tout mettre sur le rôle de ces aliments. La mycose aux ongles, en particulier, n'a rien à voir avec quoi que ce soit. C'est juste l'ongle qui est envahi parce que l'ongle est malade. Il est malade de quoi ? Peut-être qu'il est déformé par les chaussures, etc. Mais c'est un problème local, a priori, jusqu'à ce que votre médecin puisse vous le dire.
Donc c'est local, cher monsieur. Alors, question encore, parce que j'ai un afflux de questions et il nous reste que 4 minutes. Bonjour, connaissez-vous le lait frais non homogénéisé et non standardisé ? Non standardisé signifie qu'on n'ajuste pas son taux de matière grasse. On n'ajoute rien au lait et on ne lui retire rien. Les taux de matière grasse présents naturellement dans le lait aussi entre 3,6 et 4,4%. Vous avez vu les auditeurs que j'ai à Radio Courtoisie, hein, en fonction de la race des vaches, l'alimentation des saisons. Le lait entier vendu n'est pas entier. La standardisation consiste à séparer la crème riche en matière grasse du lait grâce à une écrémeuse ou une centrifugeuse. Cette crème sert ensuite à la production du beurre ou de crème fraîche ou à être remélangée au lait dans les dosages requis pour obtenir du lait écrémé, demi-crémé ou entier. Donc est-ce que vous connaissez le lait frais, non homogénéisé et non standardisé?
Non, je crois que le monsieur est tombé sur un article qui
c'est madame.
Très intéressant. Mais voilà, non, je ne connais pas particulièrement cela.
Donc ça, voilà, donc les gens, on voit quand même qu'ils s'y intéressent parce que faut dire les choses. Dès qu'on dépasse un âge, moi je pense des 35 ans, hein, il faut faire attention parce que on ne maigrit plus pareil.
Exactement.
On grossit plus après un certain temps. Je crois que surtout les femmes, je pense.
Ouais.
Je
Et
pense.
après,
Mais je pense que après ménopause, par exemple,
oui, bien
y a
sûr.
un vrai changement biologique au sein des femmes, quoi.
Bien sûr, le rapport œstrogène-progestérone change. La progestérone est une bonne hormone pour la femme, mais les œstrogènes ont tendance à faire prendre du poids, etc.
Merci, cher professeur, auteur de Qu'est-ce qui ne va pas dans mes intestins aux éditions Guy Trédaniel. Où est-ce qu'on peut retrouver le livre, cher professeur?
Alors on le trouve partout, chez tous les libraires, et je suis très heureux de l'accueil extrêmement favorable des libraires pour ce livre, comme ils l'ont fait d'ailleurs pour Les Parasites, qui a été numéro un des ventes, celui-ci l'est également. On le trouve dans toutes les grandes distributions, vous savez, les Fnac, on le trouve partout, c'est très
Est-ce
facile,
que
on le contacte.
bientôt vous ferez des dédicaces peut-être?
Oui, alors,
Ah,
le livre, on
dites-moi.
tape Imbert Intestin, on va trouver. Je vais dans des régions, par exemple hier j'étais à Arcachon, très agréable, pour discuter, pour faire une petite conférence et parler du livre. Donc les personnes qui souhaitent m'entendre peuvent me contacter et j'irai volontiers faire des...
Alors, comment on vous
Je le fais
contacte?
également pour les médecins. Pardon?
Comment on vous contacte?
Alors il faut appeler mon secrétariat, je ne sais pas, est-ce que vous
Professeur
pourrez mettre...
Imbert, on met professeur Imbert.
Oui. Le mieux, c'est un courrier par la poste, en mettant un timbre. Parce que là, c'est sûr que ça va m'arriver. L'adresse, elle est sur Internet, dans mon petit village, qui est le village du peintre Courbet. C'est Ornans, O-R-N-A-N-S,
D'accord.
Ornans. L'enterrement à Ornans du peintre Courbet. On trouve mon adresse, une lettre postale,
Voilà.
c'est le mieux.
Philippe Imbert, qu'est-ce qui ne va pas dans mes intestins? Merci à vous d'avoir été si nombreux. Passez un excellent week-end. Salut, allez, ciao!
Vous venez d'entendre le libre journal des controverses dirigé par Mike Borowski, diffusé en direct sur Radio Courtoisie samedi 18 avril 2026 de 10h30 à midi et réalisé par Arnaud. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris.